Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
Frédéric Charillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, vous êtes l'auteur de Guerre d'influence chez Odile Jacob et dans le quotidien L'Opinion de cette semaine, vous revenez sur les parallèles historiques qui sont faits aujourd'hui avec les années 30, la montée des périls, les accords de Munich et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il vous semble pertinent ?
Alors, oui, d'une certaine manière, il y a des points communs, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une opposition entre des démocraties et des régimes autoritaires. Ensuite, on voit qu'il y a le risque, comme un peu dans les années 30, d'un grand allié américain qui, on le sait, jusqu'à l'attaque de Pearl Harbor en décembre 41, ne voulait pas intervenir dans les affaires européennes, et ça a duré même assez longtemps. Donc, de ce point de vue-là, il y a des parallèles. Il y a aussi
le
des parallèles...
dans le cas du retour de Donald Trump au pouvoir. C'est ce
oui,
que tout
mais
monde
enfin, ce parti avec ou sans Donald Trump au pouvoir, il existe aujourd'hui avec force aux États-Unis. D'ailleurs, même si Donald Trump ne remportait pas la prochaine élection... Je pense que ce courant-là va rester. Donc c'est une tendance de fond dans la société américaine aujourd'hui.
L'isolationnisme.
C'est un retour à l'isolationnisme, qui a toujours été présent, mais pas tellement pendant la guerre froide. Là, c'est vraiment un grand retour. Et puis, on a évidemment une agression en Europe. Et même d'ailleurs en Europe occidentale, on a un certain nombre de leaders politiques ou de partis politiques qui ne souhaitent pas condamner cette agression. Et donc, de ce point de vue-là, on a un certain nombre de parallèles. Alors évidemment, tout ça avec beaucoup de changements néanmoins, on n'est plus dans la même époque, c'est vrai, mais il y a un point commun, c'est qu'il y a une stratégie d'intimidation, un retour à la force. On entend les intimidations de Vladimir Poutine, c'est-à-dire si je veux, je vous écrase, je peux utiliser l'arme nucléaire. On a entendu même le vice-président de la Douma dire les soldats français vont rentrer dans des cercueils à Orly. Donc on retrouve c'est la brutalité.
C'était après que Emmanuel Macron ait dit qu'il parlait d'envoyer des soldats en Ukraine. Hein, c'était la réponse. Alors c'est vrai que c'est ce que vous dites dans votre article, hein, Frédéric Charillon, la force et l'intimidation sont de retour dans les relations internationales. Vous ajoutez, la rhétorique de la paix et de la négociation sont devenues synonymes de faiblesse.
Oui, parce que pendant plusieurs années, notamment après la fin de la guerre froide, d'abord dans les années 90, puis dans les années 2000, on était quand même dans une époque où, pour être crédible et légitime dans les relations internationales, il fallait être un négociateur, il fallait promouvoir la paix, il fallait soutenir des processus de paix. Je me souviens des États-Unis qui ont essayé de lancer le processus de paix au Proche-Orient à partir des accords d'Oslo et des pourparlers, ce qui a d'ailleurs avait abouti à l'époque à la poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat le 13 septembre 93 sur la pelouse de la Maison-Blanche. Le même Bill Clinton avait essayé de promouvoir la paix et avait réussi d'ailleurs en Irlande du Nord. Et on avait cette époque où on sentait que des leaders politiques ou des diplomaties nationales voulaient montrer qu'elles étaient dans une logique, une dynamique de paix. Aujourd'hui, ceux qui font ça, on a l'impression qu'ils passent pour des faibles, pour des naïfs, et au contraire, l'heure est aux hommes forts, si on peut dire. Si on regarde un petit peu qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine, c'est Xi Jinping, quand il menace Taïwan d'utiliser la force pour la ramener dans le giron chinois, c'est Erdogan de temps en temps qui menace la Grèce ou quelques autres, c'est évidemment aussi l'Azerbaïdjan en Arménie, et même d'une certaine manière, en Israël, Benjamin Netanyahou joue cette carte de l'homme fort, de l'utilisation de la force. C'est un moment où très clairement, les autres ont l'air faibles.
La Chine, dites-vous, en est un bon exemple. Hein. Sa rhétorique a longtemps été pacifique et rassurante. Aujourd'hui, elle n'exclut plus l'usage de la force vis-à-vis de Taïwan.
Oui, alors il y a eu un tournant. On le sentait déjà un petit peu avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. C'est-à-dire, moi je me souviens, jusqu'en 2009, la Chine accompagnait son développement et sa montée en puissance économique d'une rhétorique très rassurante, en disant mais on veut un développement harmonieux. D'ailleurs, il ne voulait pas trop parler de puissance. Et puis, on a senti après 2009, vers 2009-2010 que ça changeait. Je me souviens, il y avait un sommet de l'APEC, de l'Association des États du Pacifique, en 2010, je crois, où la Chine avait dit, de toute façon, la seule réalité dans cette région, c'est que la Chine est un grand pays, les autres ne sont que des petits pays. Donc, on sentait que le ton avait changé. Et puis, évidemment, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping à partir de 2013 a opéré un vrai changement de ton. Et aujourd'hui, la Chine dit, nous n'excluons pas la force. Et on a bien vu son intimidation avant les élections taïwanaises, quand les électeurs s'apprêtaient à voter pour quelqu'un qui ne plaisait pas à Pékin, il y a eu des sévères mises en garde sur le mode « si vous votez pour ce monsieur, ça va mal se passer ». Ils ont voté quand même pour ce monsieur, ce qui montre que l'intimidation n'a pas fonctionné, mais l'intimidation était là.
Mais Frédéric Charillon, l'Occident, vous le reconnaissez vous-même, a sa part de responsabilité là-dedans. L'invasion de l'Afghanistan, de l'Irak, la guerre en Libye, ont ouvert la boîte de Pandore.
Le recours
à la force, c'est quand même l'Occident.
Oui.
Le premier qui l'a fait, vous auriez pu ajouter d'ailleurs le bombardement de la Serbie et du Kosovo par les forces de l'OTAN en 1999. C'est là qu'on a ouvert la boîte de Pandore en utilisant la menace d'abord et la force ensuite.
Alors, il y a eu effectivement cette évolution, très clairement. Les années 90, c'est vrai, c'était les processus de paix. Il y a eu les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, qui a vraiment été un changement de donne tout à fait important. Et là, on a vu, en plusieurs étapes d'ailleurs, on a vu l'Occident, d'abord, ne pas forcément respecter le droit international lui-même. La guerre irakienne, qui était une guerre de choix, c'est-à-dire que Saddam Hussein a été accusé d'avoir des armes de destruction massive, point sur lequel les États-Unis sont revenus eux-mêmes après en admettant qu'ils avaient menti. On se souvient de Colin Powell, le secrétaire d'État de l'époque, qui a ensuite dit et écrit même dans ses mémoires que c'était une tâche sur son parcours, qu'il regrettait ça énormément. Donc
il disait aussi qu'il était complice dans les attentats du 11 septembre, exactement comme Poutine aujourd'hui dit que l'Ukraine est complice dans l'attentat de Moscou.
Absolument.
Il y a eu, par Daesh.
Absolument. Il y a eu ce qu'on appelait cette hubris, c'est-à-dire cette démesure américaine qui rêvait à un moment de changer le monde, et qui estimait que puisqu'il y avait un problème avec le Moyen-Orient, eh ben, il fallait changer le Moyen-Orient et refaire les sociétés du Moyen-Orient, y compris par la force. C'est ce qu'on appelait à un moment le wilsonisme beauté, c'est-à-dire changer le monde et imposer la démocratie, y compris par la force. Donc oui, absolument, les Occidentaux, avec leur changement de régime, qu'on a essayé de faire en Serbie, effectivement, en Irak, en Libye, ont été les promoteurs, à un moment, de ce retour de la force, dans un moment où ils pensaient qu'ils n'avaient pas, ce qui n'était pas complètement faux d'ailleurs, de peer competition, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas en face d'eux de gens qui pouvaient jouer dans la même cour. La Chine n'était pas aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui. La Russie pensait ses plaies de l'après 91, après la fin de l'Union soviétique. Donc les États-Unis et les pays occidentaux avaient une sorte de champ libre, effectivement, pour remodeler le monde à leur façon, et ils ont été tentés de le faire par la force, et ils ont ouvert la boîte de Pandore, comme vous l'avez dit.
Et Poutine va s'y mettre aussi à partir de 2008.
Ouais.
Mais on fait une pause, Frédéric Charillon, et vous allez nous raconter ça.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Frédéric Charillon est mon invité ce matin. C'est l'auteur de Guerre d'influence chez Odile Jacob et d'une chronique très intéressante dans l'opinion qui, cette semaine, revenait sur le retour de la force et de l'intimidation dans les relations internationales. Alors, on a dit comment ça s'était produit. Hein. Ça commence, pour ainsi dire, en 1999, quand l'OTAN commence à bombarder la Serbie et le Kosovo. En 2008, c'est au tour de Vladimir Poutine d'avoir recours à la force et à l'intimidation. C'est en Géorgie que ça se passe, juste après le sommet de l'OTAN au cours duquel George W. Bush à l'époque avait dit que la Géorgie et l'Ukraine avaient vocation à entrer dans l'OTAN. C'est la goutte qui a fait déborder le vase.
Alors c'est très difficile ce débat parce que les Américains disent on n'a jamais rien promis quand les Russes aujourd'hui disent mais vous nous aviez promis que vous n'allez pas à l'époque élargir l'OTAN. Les Américains ont dit on n'a jamais dit ça. Bon, il y a un jeu de toute façon de l'équilibre des puissances et de la loi du plus fort en relation internationale qui fait que tout ça n'est pas très étonnant. L'Union soviétique s'est effondrée en 1991, les États-Unis ont poussé leur avantage, c'est évident. Donc effectivement des pays d'Europe centrale et orientale qui étaient sous le joug de l'Union soviétique ont fini par rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Ça n'a pas plu, évidemment, à Moscou, qui voyait là un grignotage de son ancienne sphère d'influence. Et effectivement, il y a une rancœur très très forte qui reste, qui persiste de ce temps-là. Alors, est-ce que c'est vrai que les Américains avaient promis quelque chose? On n'en a pas de trace.
Toujours est-il qu'au moment où on parle de la Géorgie et de l'Ukraine, on parle d'anciennes républiques soviétiques.
Oui, absolument.
Et là, évidemment, alors il y avait eu les États baltes avant, mais enfin là, c'était plus particulier.
Alors très clairement, il y a eu, si vous voulez, une progression de l'OTAN dans ces années-là. Et on a senti qu'à un moment, Vladimir Poutine, qui est arrivé au pouvoir, lui, en 2000, a voulu vraiment mettre un frein à cette expansion de l'OTAN, et il l'a prévenu d'une certaine manière. D'abord, il y avait un désaccord sur le Kosovo, où très clairement, les Russes nous avaient dit, attention, si vous commencez à reconnaître le Kosovo et à démanteler la Serbie, Nous aussi, on peut s'amuser à ça. On peut faire ça avec des républiques séparatistes en Géorgie. Il y a la Transnistrie en Moldavie. Il y a des minorités russes importantes dans les pays baltes. Donc c'est vrai qu'on avait été prévenus en quelque sorte.
Et on l'a fait quand même.
Et on l'a fait quand même. Ensuite, deuxième avertissement, attention, la Géorgie et l'Ukraine, vous n'y touchez pas. La France et l'Allemagne, on s'en souvient, étaient d'ailleurs très prudents en disant attention, non, ça, il ne faut pas commencer à parler d'intégration.
Ouais.
On n'est pas favorable à l'intégration éventuelle dans l'OTAN de ces deux pays. Premier avertissement suivi des faits, c'est effectivement l'invasion de la Géorgie en 2008, ce qui d'ailleurs pose à l'époque la question de la crédibilité de l'OTAN. La crédibilité de l'OTAN, c'est que l'article 5 dit, si un de ses membres est attaqué, tout le monde va le défendre, ou en tout cas tout le monde va venir à son aide. Quand Poutine envahit la Géorgie en 2008, tout le monde a la question à l'esprit, c'est-à-dire est-ce qu'il l'aurait fait quand même si la Géorgie avait déjà fait partie de l'OTAN? Alors il y a les optimistes qui disent mais non, justement, jamais il n'aurait fait ça. Donc ça montre bien qu'il faut continuer à intégrer ces pays dans l'OTAN. Et puis il y a ceux qui commencent à dire et s'il l'avait fait quand même, est-ce que nous aurions voulu mourir pour la Géorgie? Et quelques années plus tard, ça nous donnera Donald Trump qui est au micro de Fox News au moment de l'intégration cette fois du Monténégro dans l'OTAN, lorsque le présentateur de Fox News lui dit est-ce que moi je vois pas pourquoi j'enverrais mes enfants mourir pour le Monténégro? Donald Trump fait cette réponse qui sonne comme un coup de tonnerre. Il dit je vous comprends parfaitement parce que je pense la même chose. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, il démolit la crédibilité de l'article 5 de l'OTAN et donc on se retrouve tous avec cette question. On a une alliance qui s'est élargie, y compris à des petits pays dont peut-être d'ailleurs le président américain ne saurait pas les situer sur une carte. Est-ce que vraiment on est prêt à une guerre avec la Russie pour ces petits pays? Bon, là c'est pas les petits pays, c'est l'Ukraine, mais la question est posée.
La force et l'intimidation sont donc de retour. Emmanuel Macron, qui se singularisait au début de la guerre en Ukraine en voulant continuer de parler avec Poutine et qui laissait entendre que tout cela finirait par des négociations, adopte aujourd'hui une rhétorique va-t-en-guerre en disant que la défaite de la Russie est indispensable et en parlant d'envoyer des troupes en Ukraine.
Ouais. Alors, c'est pas aussi clair que ça, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne voulait pas exclure, qu'il n'excluait aucune option. Il n'a pas dit « on va envoyer des troupes en Ukraine ». Il a dit « on peut rien exclure ». Alors peut-être d'ailleurs pensait-il parfois à des conseillers militaires ou des forces...
C'est probablement ce
c'est
à quoi il
évidemment
pensait.
Plutôt... Mais évidemment, la rhétorique a fait bondir beaucoup de gens. D'abord, elle a créé une sorte de réaction chez nos propres partenaires européens et d'ailleurs même à Washington. La ligne américaine depuis le début, c'est de dire « la Russie ne doit pas l'emporter en Ukraine au sens où on ne peut pas cautionner une agression qui se solderait par effectivement des prises territoriales. Il ne faut pas que la Russie réussisse. Mais notre priorité, notre ligne rouge, ce n'est pas d'affrontement direct avec la Russie. Les États-Unis ont toujours été clairs, l'administration Biden a toujours été clair, on ne veut pas de guerre directe avec la Russie. Donc c'est pour ça qu'évidemment, quand Emmanuel Macron dit on n'exclut pas l'envoi de troupes au sens peut-être conseiller militaire, mais tout le monde entend, on pourrait envoyer des soldats en Ukraine.
Ce qui est de l'intimidation, comme les autres, au fond. Il a recours à l'intimidation.
Il a recours, en tout cas, à une volonté de montrer une détermination. Le problème, me semble-t-il, c'est quand on fait ça, il faut se mettre d'accord avec nos partenaires européens. C'est-à-dire qu'il faut se concerter un petit peu. Si on prend le risque de se faire désavouer par tous les autres le lendemain, et c'est quand même un petit peu ce qui s'est passé, la démonstration de détermination, elle n'est pas complète, on va le dire comme ça.
Mais au fond, tout ce que vous décrivez, Frédéric, c'est ce qu'on appelle la montée aux extrêmes, non? Est-ce que c'est ce qu'on est tous en train de faire? On monte aux extrêmes?
Alors, on est dans un bluff, en tout cas. On est dans une volonté de détermination, de montrer sa détermination de part et d'autre. Le problème, c'est que ça peut très mal finir. Ces affaires-là. Parce qu'à partir du moment où on monte d'un cran des deux côtés, on galvanise aussi les opinions derrière. C'est surtout le cas des régimes nationalistes comme en Russie. Il y a eu un sondage très intéressant, il y a pas très longtemps, par un organisme russe et des sociologues russes qui sont toujours à Moscou, mais qu'on considère quand même toujours tout à fait digne de foi et sérieux. C'est pas forcément de la propagande pure, qui montrait que les Russes aujourd'hui soutenaient Poutine, alors, dans tous les cas de figure, c'est-à-dire, on leur posait la question, si Poutine vous dit qu'il faut continuer la guerre en Ukraine, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on est, en gros, 75%, on est d'accord. Et s'il vous dit qu'il faut arrêter la guerre en Ukraine, on est d'accord aussi. Mais alors, en revanche, il y a une autre question, c'est-à-dire, et si il vous dit faut qu'on abandonne l'Ukraine et qu'on rende les territoires qu'on a pris, et bien là, il y avait une majorité pour dire non, on serait pas d'accord. Ça veut dire que, du côté russe, même quand on a ce genre de rhétorique, on entraîne l'opinion derrière soi, c'est difficile de faire marche arrière après. De la même manière que dans les démocraties occidentales, si on dit il faut rester aux côtés de l'Ukraine, je pense qu'il va être très difficile après de leur dire bon allez finalement on laisse tomber. Je pense que ça va pas être si facile que ça. Donc on est dans une escalade verbale, mais il faut se méfier des escalades même verbales.
Vous le dites vous-même, hein, l'histoire des relations internationales connaît trois méthodes face à l'intimidation. La première, c'est l'apaisement, auquel cas on se fait traiter de munichois.
Voilà.
La deuxième, c'est l'escalade. Mais il faut en avoir les moyens. Et la troisième, c'est le containment, c'est la guerre froide, telle qu'on l'a connue, mais il faut avoir des alliés partout dans le monde.
Oui, alors les trois, ce qui était intéressant, c'est qu'on a l'impression que la France a essayé au moins les deux premières méthodes dans sa rhétorique. Au début, c'était effectivement pas l'apaisement, parce que quand on dit appeasement, ça fait penser à Daladier, Chamberlain et à Munich 1938. Donc ça, c'est quelque chose...
C'est très, très mal vu aujourd'hui.
C'est très mal vu, et à juste titre, d'une certaine manière. Mais au début, il y avait cette accusation contre Emmanuel Macron, quand il disait d'ailleurs quelque chose de tout à fait banal, qui est de dire il faut garder le dialogue ouvert avec Moscou. C'est le béaba de tout. Et quand il disait il faut pas humilier la Russie, dans n'importe quel manuel de négociation, on trouve ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le béaba, c'est de dire il faut toujours garder le dialogue ouvert et puis il faut trouver une porte de sortie pour tout le monde. Bon, mais même en disant uniquement ça, qui était quand même du bon sens, et d'ailleurs qui n'était pas différent de ce que disait Biden aux États-Unis, on se souvient des critiques en disant voilà, il est prêt à renoncer, etc. Bon, quand il a voulu faire le contraire, c'est-à-dire cette fois au contraire
l'escalade,
il s'est fait taper dessus aussi. En réalité, effectivement, c'est plutôt la troisième méthode qui est la meilleure, c'est-à-dire le containment. Mais ça demande beaucoup de concertation. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer d'isoler, de montrer à l'agresseur qu'il est quand même isolé, qu'il va y avoir des sanctions, que ça va avoir un coût politique et économique très important pour lui. Mais ça ne peut pas se faire à travers des déclarations solitaires. C'est quelque chose qu'il faut monter ensemble. D'ailleurs, les Européens le font.
On a fait, les Européens. Le problème, c'est que le reste du monde n'a pas suivi.
Alors, le gros problème, c'est qu'on a bien vu que les pays du Sud ne voulaient pas entrer là-dedans. Alors, pas parce qu'ils sont forcément pro-Poutine, parce qu'ils estiment, d'une part, que d'abord, ils ont quand même toujours beaucoup de rancœur depuis les années 2000 et le changement de régime néo-conservateur. Ensuite, parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur guerre, c'est une affaire d'Européens. Ils ne voient pas, ils veulent bien condamner à l'ONU l'invasion et l'agression. Ils ne veulent pas entrer dans une logique de sanctions. Disons, nous, on a aussi nos intérêts. Quand nous avons des guerres, vous ne faites pas de sanctions, vous ne voulez pas vous auto-contraindre, je vois pas pourquoi vous nous imposeriez ça. Puis il y a quelque chose de plus fort et de plus embêtant, c'est quand ils nous disent arrêtez, c'est ce que d'ailleurs a dit texto hein, le ministre indien des Affaires étrangères, il dit il faut que les Occidentaux et en particulier les Européens cessent de penser que leurs problèmes doivent forcément être les problèmes du monde entier, alors que nos problèmes à nous dans le Sud, bah, ça ne les concerne pas. Ça, c'est pas possible. Et c'est un peu, c'est vrai, ce qu'on a eu tendance à faire, c'est-à-dire, attention, on arrête tout. Cette fois, c'est en Europe, c'est en Ukraine, c'est très grave. Donc, merci de bien tous vouloir adopter des sanctions. En revanche, le Yémen, la RDC, etc., c'est moins grave, c'est local, et ça agace beaucoup au Sud.
Merci Frédéric Charillon. Je renvoie à votre chronique hebdomadaire dans l'Opinion et à Guerre d'Influence, le livre que vous avez publié chez Odile Jacob.